A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Archiver les utopies, rêver la ville, réécrire les mythes. Voilà ce qui trotte dans la tête de Morad Montazami quand il se rase le matin. Historien de l'art, rédacteur en chef de la revue Zaman et directeur des éditions Zaman, il réanime apparemment et finement le fil d'Ariane entre l'Iran et le monde arabe. Sa guerre à lui est celle de l'utopie. Alors que des trésors archéologiques sont détruits par l'État islamique en Syrie ou en Irak, Montazami continue d'arpenter les musées de Bagdad ou de la Tate moderne de Londres en projetant les images du passé sur les murs d'aujourd'hui. Né en France, de parents iraniens, il a donc la démarche d'un amoureux de l'art utopiste et qui a le rêve secret de trouver sa patrie ailleurs que chez soi. Bonjour Morad Montazami.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Je vous en prie. De quel ailleurs arrivez-vous ?
Vous voulez dire là tout de suite ? Là tout de suite, j'arrive de l'ailleurs du Caire.
Oui.
J'ai eu la chance de pouvoir présenter un livre que je viens de publier avec ma maison d'édition, qui sont les archives, on va dire, panarabes de l'artiste Ahmed Abdallah, qui était un pionnier de la peinture égyptienne et notamment de toute l'expérimentation des artistes avec la lettre arabe et la plasticité de la lettre arabe dans la peinture moderne et abstraite. Et j'ai eu le grand plaisir de présenter ce livre dans le cadre d'une exposition organisée par une association, Art d'Égypte, où des artistes contemporains montrent leurs œuvres dans les espaces du palais manial, qui est un palais avec un héritage d'art islamique incroyable, magnifique. Et donc j'avais l'occasion de participer à cet événement par une présentation du livre et de ramener ces archives de l'artiste qui s'était exilé au Danemark, en France et dans toute une sphère tiers-mondiste, mais en exil pour les années 60-70, de ramener en quelque sorte ce corpus avec moi sur sa terre natale, entre guillemets. Lui, malheureusement, est décédé dans les années 80.
Alors, il se peut que dans nos têtes, un historien de l'art, ce soit un peu quelqu'un de technique et pas forcément accessible quand on n'a pas les codes, ce qui est mon cas. Donc, on va rassurer dans un premier temps avec une de vos passions à vous, Morad, à savoir le hip-hop. Qui sème le vent, récolte le tempo. Vous avez déjà le sourire, hein. Votre côté décoiffé d'historien de l'art se détend. Et vous êtes sensible apparemment à la plume d'MC Solar qu'on va retrouver avec Obsolète. Pourquoi ce titre ?
Ouais, je suis très content qu'on écoute ce morceau. Donc c'est 1994, c'est considéré comme l'âge d'or en fait du hip-hop en France et aux États-Unis. Et donc c'est un morceau incroyable.
Le premier refrain qui vous arrête.
En tout cas, voilà, c'est là où il parle de cette notion de modernité qui est envahissante. Il parle des concierges qui sont remplacés par les digicodes, etc. Pour nous aujourd'hui, évidemment, c'est évident qu'il y a un digicode dans tous les immeubles. Mais il y a le décalage que ça procure, que lui pouvait faire une analyse des concierges qui disparaissent, comme aujourd'hui les caissières, entre guillemets, disparaissent. C'est tout un discours sur la modernité, en fait, et le côté envahissant de la modernité que je trouve, moi, qui me rappelle toutes mes études sur les modernités arabes et iraniennes. Et c'est un anachronisme, et en même temps, c'est une force poétique incroyable. Je pense que c'était vraiment les lettres de noblesse du rap français, et je suis pas sûr qu'on ait jamais fait quelque chose d'aussi abouti poétiquement dans le rap. Depuis quoi.
MC Solar dans l'ensol majeur de Morad Montazami.
À guerre, les concierges étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville, il n'y avait pas de parc maître. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le cost. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos. Oh shit, à la télé y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pieds 7. Que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète, mais stylé la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solaire, l'arbalète qui pique cette zig solité à l'élite.
qui élabore depuis des décennies. Une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masque et la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventre que sa campagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette, sa toquine rime avec pop soleil.
هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم با مرا امید بس تو زنده میدارد، وگرنه هر دم همان ذکر توست بیم هلاک.
الکم لیبر فامی
نفس نفس.
Et oui, pour vous qui êtes né en 81, donc à Paris, Morad Montazami, il n'y a pas que le hip-hop dans le livret de famille. Il y a une famille, apparemment une grande famille. Présentez-nous rapidement cette famille venue d'Iran. Rosa d'abord, c'était qui ?
Donc Rosa Montazami, c'était ma grand-mère qui était cuisinière et qui était une pionnière, on va dire, dans le fait de d'écrire en fait les recettes iraniennes pour qu'elles existent à l'écrit en fait, et donc institutionnaliser en quelque sorte des traditions culinaires.
C'était une célébrité en Iran donc.
C'était une célébrité, ouais, c'est drôle d'y repenser. Elle avait une que j'ai jamais pu vraiment l'attester par l'image, mais elle avait dit-on une émission de télé à l'époque du chat, plutôt dans les années 60 je crois que dans les années 70.
On devait bien manger à la maison. En tout cas, ce n'était pas qu'une femme au fourneau, célèbre pour ses recettes de cuisine. J'ai vu qu'elle avait œuvré aussi pour l'émancipation des femmes dans l'Iran. Alors, je ne sais pas, des années 60 ou 70, qu'est-ce que vous savez là-dessus ?
Dans la mesure où c'était quelqu'un qui incarnait cette émancipation par elle-même, c'était vraiment quelqu'un, entre guillemets, comme on dit, qui porte la culotte dans le couple.
Qui porte le pagne, on dit en Afrique.
Ah bon ?
Ouais, voilà. Qui met le pagne.
Voilà, donc du coup, mon grand-père, il était un peu dans l'ombre de ma grand-mère. Donc elle l'incarnait vraiment, c'était plus une personnalité explosive, à la fois autoritaire et embrassante, et à la fois dans le contrôle, parce que c'est la recette, c'est le timing, c'est la cuisson du riz, c'est la multiplicité des herbes et leur agencement, etc. Et puis après, je ne vous parle même pas de la notion de décor, c'est-à-dire comment on dispose les plats sur la table. Et en même temps, une créativité incroyable.
Elle vous a initié à ce qu'on pourrait appeler le goût,
ouais, bien sûr.
Indirectement ?
Bien sûr.
Pour quelle raison vos parents, à vous, Morad, se retrouvent en France en 1969 ?
Alors, ils se retrouvent en France dans un contexte plus cosmopolite que révolutionnaire, c'est-à-dire plus lié à une génération de jeunes étudiants intellectuels iraniens qui sont, on va dire, versés dans la culture française, vraiment, et dans la francophonie, en fait. Ils ont fait le lycée français à l'époque à Téhéran, qui était certainement un signe de distinction sociale. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'était le peuple de Téhéran qui allait au lycée français. Et voilà, ils sont venus dans un contexte où ils voulaient tout simplement découvrir l'Europe, et mon père avait l'ambition d'écrire dans le monde diplomatique.
Les vrais révolutionnaires ne travaillent pas, affirmait mon père. Cet état de fait lui paraissait logique. On ne pouvait œuvrer à l'abolition du salariat et être salarié, c'était incompatible. Cette phrase, elle est signée de Yasaman Montazami, qui n'est autre que votre sœur, qui raconte tout ça, donc qui croque la figure de votre père dans son roman Les meilleurs jours. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Le marxiste pur et dur qu'était votre père vivait de quoi, Morad ?
Ça, c'est une question très privée, ça. Mais
on est dans le portrait.
Les business
hein.
de mon père, c'est une question très privée, c'est très hip-hop. Mais tout simplement, il a travaillé, je peux vous dire, hein, il a monté une sandwicherie, par exemple. Ensuite, il a monté un magasin de développement de photos à l'ancienne où on allait donner son... Avec des amis, en fait. Avec le même groupe d'amis iraniens qui étaient venus dans la même période, en fait, en France. Et où, en fait, ils se retrouvaient à monter des business rue Mouffetard. Là, on va retrouver un point d'ancrage cosmopolite du Paris. Paris arabe et iranien qui est la rue Mouffetard dès les années 60. Et en fait, non, il y avait c'était l'époque des petits business.
Lorsqu'en 79, l'ayatollah Khomeini renverse le Shah d'Iran pour instaurer la révolution islamique, est-ce que vous, ici, en France, vous sentez des répliques de cette révolution sous le toit de votre père marxiste?
Bien sûr, oui.
Mais est-ce que la maison est ouverte à ces dissidents,
ouais,
peut-être?
C'est exactement ce qui s'est passé et qui est en fait documenté dans le livre de ma sœur, Yasaman. Et effectivement, c'était une ambiance un peu rocambolesque, puisque mon père dispensait en fait des cours un peu de, je vais pas dire du marxisme pour les nuls, mais presque, si j'y repense.
Alors moi, je vous emmène une seconde dans le Téhéran peut-être reconstitué, où vous allez pour la première fois, Mourad Montazami, en 87-88.
من دولت تعیین می کنم من تو دهن این دولت می زنم من دولت تعیین می کنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد
Mourad Montazami pour RFI, est-ce que votre première fois en Iran, c'était un peu comme ça dans votre tête? C'est-à-dire Rachita revisitant Rock El Kasbah des Clash en pensant à la révolution islamique de l'ayatollah.
Ouais, j'espère. Dans mon rêve de moi-même et dans mon rêve des souvenirs qui sont enfouis et que je ne peux pas exprimer parce que j'avais 5 ans ou 6 ans. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le reconstitue. À travers cette chanson, effectivement, c'est tellement intéressant comme sous-texte, le fait que le groupe de rock britannique, là, des Clash, qui eux-mêmes en fait sont dans une tradition musicale qui intègre le reggae, hein. Donc quand on parle des Clash, on parle d'un groupe blanc, mais on parle d'un groupe qui est noir aussi par un certain héritage, et ensuite en fait qui s'adresse quasiment à l'ayatollah Khomeini dans son premier discours où il discrimine le rock, quoi. Enfin, quel concours de circonstances incroyable, en fait, que d'à travers cette chanson des Clash, où les paroles sont tellement ambivalentes, en fait, et en fait, en même temps, c'est hyper subversif, parce qu'il pose la question du rock en territoire islamique, en quelque sorte, avec un phénomène politique nouveau, qui est le produit de cette révolution de 79 en Iran, et que personne ne peut encore analyser vraiment, puisque même Michel Foucault, entre guillemets, s'est emmêlé les pinceaux dans cette histoire, dans son soutien, entre guillemets, à Khomeini. Et après, Rachita, quoi. Rachita, la comète, quoi.
Alors, on peut presque le deviner en vous écoutant, Mourad, vous retrouvez étudiant à faire des sciences humaines à Nanterre, près de Paris, c'est-à-dire que vous lisez des Barthes, des Foucault, des Deleuze, il y a pire hein, dans la vie, ça a laissé des traces, des belles traces apparemment. Mais durant vos études, vous découvrez finalement la littérature du XXe siècle. Et puis de fil en aiguille, vous découvrez un beau jour l'histoire de l'art. Qui c'est qui vous a ouvert le troisième œil sur cette question?
En fait, c'est vrai que mes études m'ont mené à faire quelques croisements comme ça et à me chercher un petit peu. Et j'étais plus attiré justement par ce lieu qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'était un autre mythe de l'époque pour moi par rapport à ces auteurs que je lisais quand j'étais à la fac à Nanterre. Et donc du coup, c'est des historiens de l'art de cette institution. C'est des gens soit que j'ai pas eu la chance de rencontrer, comme Daniel Arras, parce qu'il était mort avant. Soit des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, comme Hubert Damisch, Giovanni Carreri, qui
oui.
était rattaché à
Donc là, on est
ce
dans
centre.
le cercle intime de
des
ces
historiens
grands...
de l'art voilà. de l'École des hautes études en sciences sociales.
Mais donc, c'est plus les théoriciens de l'histoire de l'art qui vous ont cueilli qu'une émotion que vous auriez pu ressentir devant une sculpture, une peinture, un jour dans un musée.
Ouais, en fait, pour moi, comme j'ai grandi en France, en banlieue parisienne, les musées, c'était toujours des, entre guillemets, des lieux où on était un peu obligé d'aller. Donc, du coup,
la
moi,
corvée.
Ouais, voilà. Donc, moi, ayant grandi en banlieue parisienne, dans ce contexte-là, je ne vais pas raconter des mythes sur une rencontre avec la Joconde ou je ne sais pas quoi. Pour nous, c'était des visites reloues. Je crois que c'est plus passé par des idoles, en quelque sorte, donc des gens que j'admirais pour... Voilà, effectivement, la pensée qu'ils produisaient. Et c'est vrai que j'ai peut-être été plus touché par la pensée de ces gens avant d'être touché par des œuvres dans des musées. Ça, apparemment, c'est clair. Ouais.
Alors, j'aimerais, avant qu'on évoque votre vue Zaman, qu'on se rapproche d'une voix, une de plus, qui a été sans doute essentielle pour vous. Celle de Tristan Tzara, le fondateur du mouvement Dada au début du XXe siècle.
Le programme de Dada était, contrairement à ce qu'on pense communément à la destruction, c'était de créer de nouvelles valeurs, renverser les valeurs existantes. Et pour cela, évidemment, pour les renverser, il fallait détruire les valeurs ayant cours communément et plus ou moins académiques. C'est pour cela que la réputation de Dada, le mouvement destructeur, a pris pied. Et malheureusement, on pense que c'est ça vraiment, uniquement le mouvement Dada. Et évidemment, on ne peut pas construire si on ne détruit pas auparavant ce qui existe.
T comme tour de Babel.
Dadaïste alors dans votre démarche, Morad Montazami, c'est-à-dire vous souhaitez, c'est des grands projets comme ça, mais c'est bien de passer par le grand pour en arriver peut-être à des petites choses essentielles. Détruire une tour de Babel pour en construire une autre, c'est votre projet ?
Ouais. C'est pas mal. Moi, j'ai, c'est vrai, un amour fort pour Dada dans l'histoire de l'art moderne. Et je crois, peut-être en discutant avec vous récemment, j'ai pu faire un lien avec ma préoccupation plus urgente et pour l'histoire de l'art du monde arabe moderne. Notamment tous ces artistes arabes qui ont effectivement expérimenté autour de la plasticité de la lettre arabe. Donc on parle de gens comme Dia Azaoui, l'artiste irakien, ou des artistes plus méconnus comme Hamed Abdallah, qui est évolué dans un contexte plus militant et donc dont les œuvres commencent maintenant à se montrer. Donc il est d'ailleurs en ce moment exposé dans une galerie Place des Vosges à Paris, la galerie Marc Hachem.
Mais pourquoi faut y aller d'ailleurs ?
Et donc pour se rendre compte en fait de cette espèce de texte arabe, la textualité, la plasticité du langage moderne arabe en mouvement entre des peintures, des poésies, des films, évidemment, etc. Je crois que ce lien anachronique avec Dada, il se fait aussi dans cette expérimentation pour déconstruire le langage, pour recréer des nouveaux langages. Je pense à des artistes comme Rachid Koraïchi, par exemple, l'artiste algérien qui est présent dans les collections de l'Institut du Monde Arabe. Après tout, le lien avec Dada, il est aussi celui des artistes Tristan Tzara, c'est un immigré qui essaye aussi de trouver sa patrie ailleurs, entre guillemets, et donc qui doit aussi se frayer un chemin contre même l'idée de pouvoir, entre guillemets, s'intégrer. Donc la déconstruction, la désintégration du langage, elle est aussi contre l'idée de devoir absolument se fondre dans un moule, quoi.
Alors pour apprécier l'art, on a besoin d'un ingrédient qui s'appelle le temps. Votre vue, Morad Montazami, s'appelle Zaman. Ça veut dire quoi ?
Zaman, ça veut dire temps ou époque. Et c'est le nom de notre vue annuelle sur les échanges culturels, artistiques, philosophiques, dans les modernités que je qualifierais de arabe, africaine et asiatique.
Ah oui, vous ouvrez les fenêtres très larges.
On est obligé de se donner cette ampleur quand on veut ne pas être limité à la frontière artificielle d'Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, quand on veut ne pas être limité à toutes ces frontières coloniales qui restent aujourd'hui entre Mashrek, Maghreb, etc. On est obligé de dire modernité arabe, africaine et asiatique.
Vous voulez réécrire le tracé de Berlin, enfin.
Il y a toujours
vous réécrivez l'histoire un peu, non ?
Il y a toujours cette idée pour quelqu'un, je pense, qui fait une revue, on fait ce travail de contre-cartographie toujours.
Alors, l'ambition, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant votre édito, l'ambition de Zaman se décline, pourrait se décliner selon trois axes. Le premier, c'est archiver les utopies, ensuite rêver les villes, et puis réécrire les mythes. Waouh, 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 j'ai envie de dire. Archiver les utopies, ça veut dire quoi ?
Archiver les utopies, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont rêvé avant nous, qui ont rêvé de renaissance culturelle dans leur pays où il n'y avait pas forcément un musée d'art moderne, il n'y avait pas forcément une université d'histoire de l'art.
Donc par exemple,
par exemple, je pense à l'expérience qui est celle de l'école de Casablanca, qui est une école qui à la base vient du contexte colonial, hein, dans le Maroc des années 60, mais où des artistes comme Farid Belkaya, Mohamed Cheba et Mohamed Melehi vont œuvrer pour refonder tout un terreau pédagogique et artistique dans lequel leur œuvre, leur peinture d'avant-garde de la peinture abstraite marocaine va rencontrer le désir de toute une génération de jeunes marocains post-indépendance pour définir qu'est-ce que ça va être l'abstraction dans le contexte marocain, à quoi sert l'abstraction, comment revenir aux sources tout en restant dans l'avant-garde, etc. Les sources du berbérisme, par exemple, c'est des artistes d'avant-garde qui vont faire redécouvrir à des jeunes marocains des années 60 des bijoux berbères qui vont leur permettre d'imaginer la peinture abstraite au-delà même de ce qu'ils voient chez Vasarely ou dans le Bauhaus, qui les inspire aussi.
Ah, il y a un petit portable, c'est normal pour un historien de l'art qui est connecté au cosmopolitisme. Alors il s'agit aussi de rêver les villes et de le faire au bras d'architectes, mais aussi de psychanalystes ou encore de plasticiens. Je sais que vous êtes sensible par exemple au travail hors les murs qui a eu lieu dans les vieilles villes, dans la Casbah par exemple, du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on pourrait visualiser quand on a dit ça ?
Des lieux où se sont déroulées à la fois des révoltes populaires, comme les révoltes du pain dans le nord du Maroc, à différents moments du XXe siècle, dans le Rif, mais où se sont déroulés aussi des festivals, en fait. Des festivals, des expositions de peinture, jusqu'aux émanations plus contemporaines. Je pense par exemple à la cinémathèque de Tanger, bien connue, et la manière dont elle a été réhabilitée par une artiste activiste comme Ito Barada et les gens de sa génération. Et donc dans ces espaces de la Casbah, mais aussi de la Médina, on est dans des mémoires, dans des enjeux de mémoire artistique et sociaux très ténus, qui tiennent vraiment à des témoignages qu'il faut retrouver maintenant, donc archiver les utopies, et rêver la ville aussi pour imaginer les espaces dans lesquels ces témoignages ont lieu, tout simplement. Et donc c'est pour ça que cette revue que vous avez la gentillesse de présenter aujourd'hui, elle vient d'une expérience de militants iraniens exilés à Paris à la fin des années 70.
Marxiste,
donc mon père et un groupe d'Iraniens exilés à Paris qui font deux numéros de cette revue en 79 et en 80, qui est déjà en français, mais qui traite surtout du contexte iranien, alors que moi je vais recréer en quelque sorte ou réanimer ce projet éditorial 30 ans plus tard, avec une optique que j'appelle transméditerranéenne, oui, mais également du cosmopolitisme arabe et iranien. Voilà,
avec oui, parce que ce que vous dites volontiers, c'est que vous êtes animé par une sorte d'introspection arabo-iranienne. Et ça, c'est très étonnant de sentir chez vous cette volonté de rapprocher les deux frères ennemis que sont le monde arabe et l'Iran.
Oui, c'est vrai. c'est vrai, j'ai toujours des difficultés à lui donner un titre, hein, donc à cibler géographiquement les choses, parce que je crois que justement, c'est pas une expérience géographique, c'est presque une expérience plus livresque. C'est des liens qu'on fait comme quand on écrit un texte, au détour d'une note de bas de page, d'un argument, d'une volonté de relier deux expériences. Et aujourd'hui, que ce soit dans, vous vous souvenez, les manifestations qui ont eu lieu à Téhéran
en 2009.
2009, voilà exactement, qui était quasiment une petite anticipation ensuite des printemps arabes qui sont arrivés sur les talons de cet événement. Tout un tas de réminiscences, de rencontres possibles.
Si on parle d'avant-garde, qui est Bahman Mohassès ?
Alors Bahman Mohassès, c'est un peintre, sculpteur, metteur en scène et traducteur iranien, emblématique des années 60-70, qui aujourd'hui survit un petit peu à travers le titre de Picasso iranien, mais qui était surtout un grand iconoclaste, quelqu'un qui a ouvert la littérature iranienne en traduisant notamment Pirandello ou Jean Genet en farsi et en les mettant en scène, et aussi avec son tropisme italien, a réussi à produire des liens entre la peinture européenne et iranienne.
Oui, parce qu'il a vécu en exil pratiquement toute sa vie à Rome. Et alors, vous nous avez fait un cadeau pour En Sol Majeur, Morane Montazami. Vous nous avez ramené une pépite, hein, ça s'appelle comme ça, une archive qui fait partie du film de Mitra Farahani, Fifi hurle de joie. On va y entendre la voix de Bahman Mohazes, donc dans les années 60, hein, je suppose. L'archive est en noir et blanc comme ça. Ce peintre qui dit se vivre comme un personnage historique.
Évidemment que je suis un personnage historique. Et ce n'est pas pété plus haut que mon cul. Vous comprenez ? Je suis un personnage historique pour cette nation. Par conséquent, je fais très attention à moi-même. Un jour, ce peuple prendra conscience de sa maladresse. Et s'il n'en sort pas grandi, au moins il aura le nez dans sa merde. Et c'est moi qui le remets. Je suis condamné à peindre. J'ai eu ce débat avec Zenderoudi. C'est comme un rituel. Du reste, c'est une habitude qui devient physique. Pour moi, peindre, c'est exactement comme pisser. C'est pour se soulager. C'est pareil. C'est comme une pustule qui éclate.
Shukran, Morane Montazami, de nous faire découvrir pour En Sol Majeur sur RFI cette insolente liberté de pensée. Ça nous permet de regarder l'Iran des ayatollahs très différemment.
Ouais, surtout que là, il est à Téhéran quand il fait cette émission de télé en 1967. Il est dans son atelier de la rue Lal-Ezar, qui est la rue dans laquelle on peut trouver le café où les intellectuels marxistes, existentialistes, cubistes même, j'ai envie de dire, parce qu'à cette époque, il y avait tellement de courants qui se mélangeaient les uns avec les autres, qui se retrouvaient dans ce café. Et effectivement, ouais, c'est une des voix totalement iconoclaste, mais y compris pour le régime du Shah, en quelque sorte, hein, qui était un régime assez répressif, surtout envers les gauchistes iraniens de l'époque.
Qu'est-ce qu'il peignait alors ? Qu'a produit la fameuse pustule ?
Alors c'est ça qui est exceptionnel, c'est que Bahman Mohazes représentait des êtres imaginaires qui étaient des corps complètement démembrés, complètement défigurés, déstructurés. Donc on pourrait penser à une fois un peu l'expressionnisme allemand des corps défigurés, etc. Mais en même temps avec une rondeur, avec une sensualité incroyable. Du coup, ces espèces de corps avec des muscles dans tous les sens et des bras démembrés qui se retrouvaient à la place de la jambe ressemblaient plus à des espèces de paysages comme ça, de bulbes, plus qu'à des corps décharnés. Donc c'était une esthétique incroyable pour l'époque, et puis surtout qui parlait vraiment aussi du dépérissement un peu du corps humain après la Seconde Guerre mondiale. C'était un discours très internationaliste que, honnêtement, quasi aucun autre artiste iranien ne tenait. Ils étaient tous beaucoup plus dans des problématiques décoratives.
Lui-même donc a été, j'imagine, censuré par le régime iranien toute sa vie, disait que son art ne pouvait avoir aucune influence sur le monde. Et d'ailleurs, on va dire, les sociétés musulmanes sont écrasées aujourd'hui dans leur grande majorité par le fondamentalisme religieux qui met des bombes là où il y a de la pensée, et là où il y a de l'art et là où il y a de l'imaginaire. Alors, le verdict de ce peintre, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Est-ce que l'art peut changer quelque chose, cher historien de l'art ?
Il a apporté la meilleure réponse pour lui-même, puisqu'il a essayé de détruire le maximum d'œuvres qu'il pouvait détruire.
C'est vrai.
Avant sa mort, pour que les maisons de vente aux enchères et les musées ne puissent pas spéculer sur son dos. Mais bon, il n'a pas réussi, parce qu'il y a quand même des œuvres à la Tate. Donc il n'a pas tout à fait réussi son dessin. Mais...
Ouais. Alors, un fou d'histoire de l'art, ça n'écoute pas que du hip-hop. Ça se balade aussi du côté persan d'un certain Faramarz Aslani, je ne sais pas si on prononce comme ça.
Exact.
Un chanteur qui s'est exilé après la révolution islamique en Angleterre. Et vous aviez envie d'entendre un petit bout d'un morceau intitulé Divar.
Exactement, c'est un peu un chanteur romantique de l'époque
vintage,
du chat. Ouais, totalement vintage. Et donc, c'est comme vous m'aviez demandé, hein, parce que moi, je ne m'impose pas, c'est vous qui m'avez demandé.
Bah, c'est comme dans l'art, il faut des contraintes. Hein.
Voilà, c'est ça. des musiques qui rappelaient l'enfance et le contexte dans lequel j'ai grandi. Alors ça, c'est totalement ce sur quoi ma famille s'enivrait, se battait, se réunissait, se réconciliait. Donc c'était la musique de toutes les émotions, entre guillemets.
یه دیواره که پشتش هیچی نداره تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون یه پرند است که از پرواز خود خست از بونه بالشو بستن دست دیروزا نمیاد دیگه حتی به یادش فردا
L comme langue d'amour.
Waouh, j'ai renversé de l'eau.
Ah bah c'est pas grave. Bon. Vous serez pas fouetté pour ça. Alors, elle dit quoi cette chanson, Morad Montazami ? Parce que nous, on ne parle pas encore le farsi.
Alors, c'est une chanson à la fois simple et difficile à traduire, parce qu'il répète plusieurs fois le mot mur. Yedivare. Comme mes parents étaient à une époque où ils devaient, j'imagine, se rattacher à l'Iran, voilà, par des chansons, j'imagine la répétition de ce mot mur comme une espèce de pattern, comme ça, qui est de quelque chose à franchir, sur ce thème de la double culture, quoi, tout simplement, ouais. Quoi, le mur, sans vouloir en faire trop, quoi.
Le persan est une langue que vous vivez de quelle manière aujourd'hui ?
Difficilement. Ça tient à énormément de gens qui ont disparu. De la génération de mes parents, qui sont plus de ce monde. Et donc, du coup, c'est assez difficile, j'avoue, de m'imaginer une communauté persophone contemporaine qui a des raisons contemporaines et actuelles de parler farsi et de vivre en farsi. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la limite avec la possibilité de me sentir iranien pleinement en dehors d'Iran, parce que ça se passe en Iran.
Donc, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu une langue morte pour vous ?
Voilà, dans une forme de pessimisme, je peux pas dire morte, mais en tout cas à réanimer, ouais, à réanimer.
Alors je sais pas si vous aimez autant la peinture que la poésie, mon petit doigt me dit que oui quand même, mais je sais que vous kiffez une demoiselle de 94 ans, c'est sympa de nettoyer la table en même temps parce que vous avez tellement pleuré sur Faramaz Aslami. Donc vous kiffez une demoiselle de 94 ans qui s'appelle Etel Adnan, qu'on a reçue d'ailleurs en sol majeur il y a quelque temps, poétesse américano-libanaise. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire chez vous, sous votre toit du monde à vous ?
Ah bah pour le coup, c'est exactement comme Tony Maraini, elle est dans mon panthéon de ces personnes qui a vécu tellement de langues à travers sa famille, dans le contexte gréco-turc, ensuite justement arabe avec le Liban, et puis l'expérience littéraire de la rencontre avec la Beat Generation et les États-Unis dans les années 50, dont elle revient aussi, c'est incroyable, l'arabe, l'anglais, justement l'expérience de ses parents en Syrie. Toutes ces langues, elle les a à la fois pratiquées.
Ça vous fascine, ça, hein ?
Complètement. C'est-à-dire qu'elle a vraiment développé une, entre guillemets, une nouvelle langue. Hein. C'est de ce sujet qu'on parle à travers le frottement des langues entre elles, quoi. En se traduisant elle-même, en se déployant dans différentes langues, sans parler du fait qu'elle déploie aussi le texte dans ses livres d'images, ses livrets dans lesquels elle peint. Tout le monde doit la célébrer, quoi.
Alors, écoutez, on s'est fait notre popote en sol majeur hein, avec vous. On va écouter un poème que vous avez choisi d'Etel Adnan qui s'appelle L'Apocalypse arabe. Mais pour bien savourer ce poème qu'on a enregistré, il faut imaginer avoir en tête des photographies prises par un certain Fouad El-Khoury lors de la guerre civile libanaise. Est-ce que vous sauriez nous décrire l'une de ces photographies, Morad ?
Celle que j'ai sous les yeux, c'est une photographie où on voit des adolescents armés, des adolescents en habits militaires, à la fois dénudés, torse nu, et puis avec leur treillis dans une zone de la ville de Beyrouth en ruine. mais ils se sont reconstitués une espèce de petite barricade où ils peuvent s'asseoir, fumer des clopes. Et il y a une petite fille avec une robe blanche sur le coin de la photo qui est perchée sur un bidon d'essence défoncé. Et c'est comme si le petit groupe de jeunes hommes armés autour de leur table gardait un œil comme ça presque bienveillant sur la petite fille qui est parfaitement propre et étincelante dans sa robe blanche, qui regarde ailleurs en fait, on dirait un oiseau qui s'est posé là. Et donc évidemment l'entrechoc de la figure de l'enfant et la figure de la ruine, et c'est les graffitis sur les murs qui parlent plus que des ruines au sens romantique du terme. Donc c'est vivant quoi, c'est surtout des graffitis et des murs défoncés, mais il y a une esthétique là-dedans quoi, déjà dans la destruction.
Un soleil de guerre à Beyrouth, avril éclatant, un vent frais dans les navires. Un soleil jaune sur un mât, un œil dans le trou du fusil, un mort de Palestine. Un soleil mauve dans la poche de mon ami, déambulation à Paris. Un oiseau sur un orteil de Palestinien mort, une mouche chez le boucher. Beyrouth, acide sulfurique, stop. La quarantaine brûle ses fous, stop. Beyrouth. Un soleil dans le doigt, un soleil dans l'anus, un soleil monte sur l'éléphant, soleil cannibale arménien anthropophage, verrue sur les cargaisons. Un soleil jaune sur le visage cancer, sur le palestinien, cruauté du palmier. J'ai pris un navire sous la mer chez les morts et chez les vivants, oui, oui, oui. Un soleil noir, 45 cadavres noirs pour un seul cercueil, un œil noir écoutant. J'ai vu un épervier mangeant une cervelle d'enfant dans une poubelle de décoaner. J'ai vu un soleil éteint servant de ballon à Sabra. J'ai coupé le ciel en deux. Un soleil pourri et mangé de verre plane sur Beyrouth. Le silence est vendu au kilo. Bédouin couvert de sarcophages, une lune tatouée vous baigne de sa dynamite. Un soleil dynamité, un enfant dynamité, un poisson dynamité, la rue dynamité. Mangez et vomissez le soleil, mangez et vomissez la guerre. J'ai entendu un ange exploser.
L'apocalypse arabe donc qui nous traverse sur RFI pour un sol majeur. Merci Etel Adnan, merci pour ce choix, Morane Montazami. Alors on le sent bien derrière cette obsession qui est la vôtre à recréer un monde arabo-iranien. Vous interrogez un peu les catégories de pensée du Moyen-Orient. Donc c'est peut-être le moment de se tourner vers le commissaire d'exposition que vous avez été. Vous avez été commissaire de pas mal d'expos à la Modern Tate de Londres, à Téhéran, à Rabat, à Rome et à l'Institut des cultures d'islam de Paris, notamment avec l'incroyable exposition « Bagdad, mon amour ». Je pense qu'il faut qu'on en dise un mot, puisque après que l'État islamique ait démoli la fameuse fresque syrienne et moyen-orientale du musée de Mossoul, j'ai l'impression que cette exposition que vous avez conçue était comme un véritable acte de résistance.
Oui, on a essayé d'apporter une caisse de résonance à un ensemble d'artistes et de chercheurs aussi, ou d'activistes qui ont documenté ou répondu artistiquement à la catastrophe du patrimoine irakien. Je fais aucune distinction de principe entre une catastrophe patrimoniale et une catastrophe humaine. D'une certaine manière, détruire une statue du musée de Mossoul ou laisser piller les statuettes du musée des Antiquités de Bagdad, comme ont fait les Américains quand ils ont envahi l'Irak pour protéger les bâtiments du pétrole et laisser le musée de Bagdad à sa perte. Détruire une statue, c'est détruire l'âme d'un peuple.
C'est un crime culturel, ça s'appelle.
C'est détruire la représentation que ce peuple peut avoir pour se dépasser à travers les âges, à travers les époques, etc. Et justement, l'attachement d'un peuple à une identité si forte et si transfrontière. On parle de l'Irak pré-islamique, avec justement ce croisement de cultures sumériennes, assyriennes, babyloniennes, et avec l'islam qui se rajoute évidemment là-dessus et qui enrichit cet héritage. Donc là, on parle vraiment, c'est un lieu commun de le dire, un berceau de la civilisation qui part en fumée quand son patrimoine est pillé ou détruit. Et cette exposition a été faite pour parler de ça, pour remettre ça en perspective, pour montrer les artistes et les activistes qui ont œuvré à recollecter des fragments et à faire que le musée de Bagdad aujourd'hui refonctionne.
J'aimerais qu'on vous suive une seconde maintenant sur une bande-son, la bande-son d'un film qui est important pour vous. Le film s'appelle Révolution Zeng, signé Tariq Teghia. C'est un peu le Godard algérien, si on veut. Le film se passe pendant le printemps arabe et on voit un journaliste algérien qui part sur les traces donc, de cette révolte des Zeng qui a eu lieu au 9e siècle. En chemin, il va croiser une étudiante palestinienne. Alors j'aimerais que les auditeurs dans Sol Majeur ferment les yeux pour qu'ils imaginent ce film. Parce que vous, Morad Montazami, j'aimerais que vous nous donniez quelques images de ce film.
متقاعدين نقدروا نعيشوا بها الجزائر اكثر من الجزائر بالبترول والغازها
بصح الخدمه يدوا اصحاب كل اللي جوا واحد اخرين ما حنا ما كاين والو
وكيف نسمع صوتكم
بتنط من الجنه زنج
En fait le personnage qu'on voit s'avancer dans le vide en quelque sorte ou dans une espèce de fumée où il a du mal à apparaître c'est le personnage du journaliste donc en train de documenter une révolte qui aurait pu avoir eu lieu ou qui a eu lieu en échange d'une révolte qui, elle, a peut-être eu lieu il y a 10 siècles de ça. L'espace dans lequel il se retrouve, ça pourrait être le Rif, au nord du Maroc, mais ça pourrait aussi être en Algérie ou en Libye. C'est pas un espace sans identité, c'est un espace plutôt composite. Quand il rencontre les jeunes gens, qui sont habillés exactement comme des manifestants de la place Tahrir, parce qu'on sent que Tariq Teghia transforme des images médiatiques dans des images cinématographiques. Il y a tout un trajet que ce journaliste est censé réaliser pour revenir aux traces de cette révolution qui aurait peut-être donné du sens à quelque chose qui est resté insensé, entre guillemets, qui sont les révolutions arabes. Et effectivement, on le voit continuer à marcher dans ces espaces désertiques, de terres desséchées, avec très peu de végétation, qui sont intéressants parce que je crois que ça joue aussi avec une forme d'orientalisme dans un certain cinéma, y compris pasolinien, la manière dont les corps s'arrêtent devant la caméra, comme si la caméra faisait partie de la scène. Et donc ces paysages aussi arides, ça rappelle beaucoup une espèce d'orientalisme que peut-être le réalisateur ici essaye de re-inverser ou de retransformer.
Merci Morad Montazami pour cette déambulation cinématographique. Je crois que vous êtes parti dans le film. On était au pays de Tariq Teghia, qui donc n'est piégé, on va dire, par aucune algérianité dans son travail. C'est peut-être le moment de faire la nuance, puisque vous la faites vous-même dans votre vue Zaman, entre le cosmopolitisme, vous êtes pour, et le multiculturalisme, vous êtes contre.
Alors là, vous me prenez la main dans le sac d'un édito que j'ai écrit sans doute une nuit...
Sous influence
Non mais je veux dire, voilà, parce que les éditos, on essaye toujours d'écrire quelque chose d'un peu provoquant, parce que c'est très court.
Donc vous assumez plus ?
Si, j'assume totalement, il n'y a pas de problème. C'est d'abord un jeu sur les mots. Entre cosmopolitisme et multiculturalisme, mais il y a bien sûr une affaire plus sérieuse derrière ça, qui est que le cosmopolitisme, c'est justement d'étudier la manière dont les gens rêvaient avant nous, parce que aussi le mot cosmopolitisme, en fait, c'est un mot qui est ancien, et c'est un mot qui est d'une époque où on se rend compte que les échanges commerciaux et artistiques étaient beaucoup plus fluides, en fait, que l'époque qu'on caractérise de mondialisation, où les frontières et les checkpoints et les muslim bans sont beaucoup plus présents que les échanges commerciaux et culturels. Et donc c'est aussi pour retrouver ce qu'il y avait de subversif en fait dans ce mot de manière presque anachronique, alors qu'aujourd'hui un mot comme multiculturalisme, c'est un mot qui aurait pu porter une utopie et qui est devenu un mot totalement infesté par des intentions politiciennes discriminatoire et contre l'émancipation des individus. Et donc ça, c'est comment on peut infecter un mot, quoi. Et comme le mot multiculturalisme est infecté, je reviens au mot cosmopolitisme.
P
P comme pot-au-feu ou poulet yassa.
Morad, c'est le moment de passer à table.
Ah bah, poulet yassa à fond.
Ah ouais,
ouais.
Cuisine sénégalaise, donc, plutôt.
Ah, vous me donnez le choix entre deux choses. Ouais, je suis plus sur le poulet yassa que le pot-au-feu.
C'est vrai, c'est une question cruciale. Hein. Je rappelle que vous êtes le petit-fils de donc Rosa Montazami, qui a œuvré à...
J'ai le souvenir de quelques foyers...
À livrer des recettes de cuisine selon les codes persans.
Ouais. J'ai plus le souvenir de quelques foyers maliens et sénégalais de Ivry-sur-Seine, où j'ai pu traîner il y a des années, avant les histoires de l'art, et les etc., tout simplement, où je traînais avec des amis qui peignaient des fresques dans des hangars de Ivry-sur-Seine, que des souvenirs de famille en train de prendre du pot-au-feu. Ça, c'est clair.
C'est clair. Mais est-ce qu'on vous a transmis les codes de la cuisine perse ?
Bien sûr, ouais, ouais.
Sortie de la cuisine, si on vous demande la fameuse question, quel est votre sol majeur, vous répondez quoi ?
Je suis désorienté.
Mais c'est une bonne réponse d'être désorienté à cette question, non ?
Ouais, voilà, c'est une boussole qui s'arrête pas, quoi, voilà, qui continue, quoi.
Vous vous trouvez trop français, Morad Montazami ?
C'est un sentiment qu'on peut avoir, bien sûr. Quand on est né en France, de se sentir trop français à travers toutes les expériences que j'ai vécues non françaises. Ouais, c'est bien sûr, c'est un sentiment qu'on peut avoir, bien sûr.
Que vous avez.
Que je peux avoir, qui peut m'arriver d'avoir.
D'où cette iranisation en cours ou cette arabisation en cours ?
Voilà, je sais pas si pour moi c'est pas un chemin qui doit se terminer, c'est comme une initiation permanente, vraiment. J'ai pas de problème avec le fait qu'il y a une part de fiction personnelle et aussi pas de problème avec le fait qu'il faut aussi se départir et désapprendre des choses qui font partie aussi de mon éducation française pour pouvoir mieux me fondre avec certaines situations et certains artistes avec lesquels je travaille, bien sûr.
Ah, les affaires reprennent, donc c'est le moment de se quitter. Merci Morad Montazami de cette visite en sol majeur. On rappelle votre vue Zaman et on souhaite bon vent aussi au directeur des éditions Zaman. Jill Scott-Heron, pour se dire au revoir, ce serait pas mal ça, un bad guy qui est passé par la cocaïne, la violence, la prison, mais est-ce que c'est pas pour ça qu'il écrivait si bien d'ailleurs ?
Jill Scott-Heron, le morceau qu'on a choisi, c'est un sacré morceau, où il répète plusieurs fois « Did you hear what they say ?» On sent que là, Jill Scott-Heron, il n'est pas forcément dans la posture de l'activiste. Évidemment, il parle pour sa communauté, dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis, etc. Mais on sent aussi qu'il est un intercesseur, un passeur. Quand il dit « Did you hear what they say ?», il est presque plus le journaliste. Voilà, il ne prend pas la cause, il transmet.
T'as entendu ce qu'ils ont dit.
Voilà.
Did you hear what they said? Did you hear what they said? They said another brother's dead. They said he's dead, but he can't be buried. They said he's dead, but he can't be buried. Come on, come on, come on. This can't be real. Did you hear what they said? Did you hear what they said? Or did you hear what they said? They said they shot him in his head.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 15h à Paris. Sophia Bédard, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine pour un week-end spécial en Côte d'Ivoire avec Seri Bailly. À la semaine prochaine.